Bonsoir et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine qui vous emmène en douceur vers de nouveaux horizons. Elle peut être physique, morale et même politique, collective. La fatigue serait-elle un mal contemporain? Même en vacances, il arrive qu'elle nous tombe dessus et alors là, on culpabilise, on s'angoisse, on s'interroge. Résultat, on est encore plus fatigué.
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer bonsoir.
Et si, contrairement à François Damiens dans Dikennec, on apprenait à aimer la fatigue, à apprécier en tout cas certaines de ses vertus. Et si on se demandait à quoi ressemblerait la vie sans elle, à un triste jour sans fin, le philosophe Éric Fiat, auteur d'une ode à la fatigue et spécialiste d'éthique médicale, est notre premier invité ce soir. Et pour se délasser et planer, quoi de mieux que la musique aérienne de Saint-Dx? Ce jeune chanteur, auteur, compositeur, talentueux, incarne bien cette nouvelle génération d'artistes qui font tout. Et ce livre sans phare, il sera en live avec nous dans ce studio pour nous dévoiler un nouvel extrait inédit de sa mixtape qui sort à l'automne.
France Inter. Sonia Khirony. Un monde nouveau.
On plane, on vire et on s'envole ce soir sur France Inter dans un monde nouveau.
Dans le flot de mes pensées qui se télescopent, je distingue maintenant un constat naze et je sens
l'animal à la couleur, il n'y a qu'un groupe après 5 ans de silence. Le groupe Fauve est devenu Magenta. Monogramme et leur premier album sorti au printemps en partenariat avec France Inter. 14 titres qui entendent dénoncer l'impact de notre quotidien sur notre santé mentale. Ça tombe bien, notre première invitée s'intéresse justement aux répercussions de nos vies complexes et surchargées sur notre santé mentale et en particulier sur notre sommeil. Éric Fiat n'est pas expert en bien-être ou coach de vie, mais un philosophe qui s'interroge sur ce mal si contemporain qu'est la fatigue. Professeur agrégé et maître de conférence en philosophie, spécialiste d'éthique médicale, qu'il a été l'un des tout premiers à enseigner à l'université. Il a publié en 2018 une ode à la fatigue rassénérante. Bonsoir Éric Fiat.
Bonsoir Sonia Khirouni.
Pourquoi sommes-nous si fatigués ?
Ah mon Dieu, bon, la fatigue fait partie de la condition humaine. On ne peut pas imaginer un homme qui dise « fatigué, moi, jamais ». Mais il me semble que si nous sommes peut-être plus fatigués que les hommes d'auparavant, c'est parce que nous vivons dans un monde complexe, ondoyant, divers, plein d'incertitudes, et que même s'il est bon parfois de vivre dans un monde nouveau, comme votre émission le dit fort bien, je crois que les hommes ont besoin quand même de quelque chose comme un retour du même, d'une certaine stabilité. Et c'est peut-être cette stabilité, ce que Jean Giono nommait magnifiquement la rondeur des jours, vous voyez, le retour des belles habitudes. C'est peut-être le fait que cette stabilité, cette rondeur des jours nous manque, qui fait que nous sommes si fatigués.
Et alors de quoi cette fatigue est-elle le nom ? De ces journées de travail trop remplies, d'une charge mentale, comme on dit aujourd'hui, écrasante, de trop d'écrans, trop de sollicitations, trop de pression, trop de choix, trop de complexité dans ce monde qu'on a de plus en plus de mal à comprendre, un peu tout ça à la fois ?
Mais bien sûr, un peu tout ça à la fois. Je choisis dans la bigarrure des propositions que vous venez de faire, on pourrait parler de chacune de vos propositions, mais justement, ces objets qui nous sollicitent, il y a eu une interview de Bernard Pivot au début des années 80, il interviewait Umberto Eco. Et Umberto Eco n'arrêtait pas de parler de la vie intérieure, la vie intérieure, la vie intérieure. À un moment, Pivot s'arrête et dit « Mais Umberto Eco, qu'est-ce que la vie intérieure ?» Réponse d'Umberto: la vie intérieure, c'est là où il n'y a pas les téléphones. Et il explique qu'il avait besoin, pour se retrouver lui-même, d'aller sur une petite île de Méditerranée où il n'y avait pas le téléphone. Aujourd'hui, il y a le téléphone partout. Ces engins-là nous poursuivent même peut-être dans nos nuits. Et c'est peut-être justement la multiplication d'objets connectés auxquels il est difficile de résister, qui explique là encore que peut-être la pratique de la vie contemplative est plus difficile aujourd'hui.
Vous distinguez la bonne de la mauvaise fatigue, hein, pour le dire schématiquement. Vous ne faites pas évidemment l'éloge de l'épuisement subi, mais bien de cette fatigue que vous dites choisie. Qu'est-ce que c'est la fatigue choisie ?
La fatigue choisie, c'est la fatigue du sportif du dimanche que personne n'oblige de courir ou de nager. C'est la fatigue des amoureux qui cueillent toute la nuit les doux fruits d'amour dans les bras l'un de l'autre. C'est la fatigue de celui qui a la chance d'avoir pu choisir son métier et de l'aimer beaucoup. Et ces fatigues-là sont bonnes parce que même si à la fin évidemment d'une course, à la fin d'une nuit d'amour, à la fin d'une journée de travail, on est fatigué, on est heureux parce qu'on va dormir du sommeil du juste. Le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être long pour être réparateur, vous voyez. A-t-on même besoin de dormir après qu'on a gagné un match ? Après qu'on a aimé l'être qu'on aime ? Eh bien, on a en soi une réserve de joie qui dilate les quelques forces qui résistent encore. Il y a presque plus de force en moi, mais j'ai gagné elle-même et j'aime mon travail. À ce moment-là, on a besoin de dormir que quelques heures pour retourner au travail, à l'amour, au jeu.
Et vous écrivez cette très belle phrase, il n'y a rien de plus fatigant qu'une angoisse et rien de plus défatigant qu'une joie.
Merci de la trouver très belle, mais ça vient du fait que la joie était dite par les pères de l'Église, je vais parler latin moi qui étais nul en latin, la dilatatio animae et corpori, la dilatation de l'âme et du corps. Quand vous êtes joyeux, vous êtes dilaté. Quand vous êtes angoissé, vous êtes rétracté. L'homme joyeux est un homme centrifuge. L'homme angoissé est un homme centripète. Voilà deux adjectifs un peu surprenants. Ça m'étonnerait que vous ayez jamais entendu quelqu'un dire « J'ai vu Monsieur Truc, il était très centripète. J'ai vu Madame Chose, elle était très centrifuge. » Mais il y a ce pouvoir, en effet, centrifugique dans la joie. Voilà pourquoi La Fontaine est le plus grand poète de la joie. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec. Alors je sais bien que j'ai sucré un verre, parce que dans La Fontaine, c'est à ces mots, le corbeau ne sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Mais même s'il n'y avait pas eu de fromage et de libido camemberti, de désir du camembert chez le renard, quand on ne se sent pas de joie, on ouvre un large bec, c'est la jouissance amoureuse, voyez.
On va écouter quelqu'un qui parle très bien, lui aussi, de la joie, du sommeil et de la paresse. C'est l'écrivain Jean d'Ormesson, interviewé en 1959 au micro de l'ORTF.
Vous dites aussi, je ne suis pas de ces imbéciles qui se croient tenus de pleurnicher parce qu'ils viennent de calculer que le quart ou le tiers de leur vie se passe à dormir. Vous dormez beaucoup ?
Eh bien oui, je dors beaucoup et peut-être pas assez. Je trouve que c'est commode de dormir et puis agréable. Et puis que ça permet d'oublier beaucoup de choses. Et particulièrement quand on est malheureux, je le dis d'ailleurs, dormir c'est tout à fait exquis. Parce que ça vous fait sortir de ce monde où on a quand même beaucoup d'ennuis.
Et vous dites aussi, entre le sommeil et la paresse, c'est peut-être encore à la paresse que je décernerai la palme.
Ah ben, la paresse, c'est merveilleux parce que on abandonne les choses, n'est-ce pas ? On abandonne le monde.
C'est le sommeil dans la conscience, dites-vous.
Voilà, mais en s'en rendant compte. Bon, moi, je crois que c'est quelque chose d'exquis de se dire qu'on a à écrire une lettre à des amis ou qu'on a un travail à faire et de ne pas le faire en disant qu'on préfère volontairement laisser les choses se faire toutes seules.
Quelle distinction faites-vous, Éric Fiat, entre la fatigue et la paresse ? Est-elle pour vous aussi exquise qu'elle l'est pour Jean d'Ormesson ?
Ah non. Pourtant, Dieu sait que j'aimais bien Jean d'Ormesson, enfin comme tous les Français. Mais il a tout à fait raison d'aimer le sommeil. Et malheureusement, les Occidentaux dorment de moins en moins, n'est-ce pas ? En effet, dormir, c'est s'enfoncer dans une étrange sphère d'oubli. C'est pas simplement se délester du poids de la fatigue, c'est se délester de soi-même. On s'oublie, il en parle magnifiquement. Mais la paresse, non. Il me semble que pour pouvoir paresser, il faut que les autres travaillent à votre place. Et je dirais que la différence entre la fatigue et la paresse, c'est que la paresse est quand même une faute, voire peut-être un péché, dans la mesure où je dirais de la paresse qu'elle est une espèce de fatigue par anticipation, ou une anticipation de la fatigue. Le paresseux, c'est celui qui se lève à 10h, que dis-je, à midi. Il n'est pas du tout fatigué, mais il ne va rien faire parce qu'il risque de l'être. Mmh. Et ce que je n'aime pas tellement chez le paresseux, c'est le fait que pour pouvoir paresser, il faut en effet que d'autres soient industrieux.
Or, vous vous dites, il faut prendre le risque de la fatigue.
Oui, je crois qu'il faut prendre le risque de la fatigue. Je crois qu'une vie où on s'économiserait, où on s'épargnerait, où on se réserverait, c'est pas une vie heureuse. S'épargner, s'économiser, se réserver, c'est pas un remède à la fatigue, c'est le symptôme de la fatigue. Quand on aime vraiment la vie, on prend le risque de la fatigue. Et puis, il y a une fatigue qui est merveilleuse. C'est se fatiguer pour les êtres qu'on aime. Mmh. Je crois qu'à la fin de notre passage dans ce monde, ce qu'on laissera de plus beau, c'est pas forcément les plaisirs qu'on aura eus, mais les peines qu'on aura évitées. Et j'aimerais en effet, parfois, oui, les êtres qu'on aime, c'est des êtres qui parfois nous fatiguent, mais on est fatigué par eux. Mais qu'est-ce que c'est beau que de se fatiguer pour eux ?
La fatigue, elle peut être individuelle, elle peut aussi être collective. Est-ce que on est un peuple, un pays fatigué ?
Alors il semble, je ne suis, vous savez, ni sociologue, ni politiste, ni économiste, mais les collègues qui font ces métiers-là repèrent quelque chose comme un pessimisme français et étonnant, alors qu'on est un pays où, à mon avis, il est encore possible de bien vivre. Et puis il y a en effet cette crise sanitaire, en effet, qui fait peser sur nous tant d'incertitudes. Comme disait Hannah Arendt, dans cet océan d'incertitudes qui est par définition l'avenir, nous avons besoin d'îlots de certitudes. Et aujourd'hui, on en a de moins en moins. Et c'est difficile de vivre en ne sachant pas ce que sera l'avenir, si vous voulez. J'ai une collègue, Claire Marin, qui dit très joliment qu'on est passé d'un rapport à l'avenir qui se disait au futur, un rapport à l'avenir qui se dit au conditionnel. Ça n'est plus « nous nous verrons en Corrèze fin septembre », c'est « nous nous verrions en Corrèze fin septembre si la crise le permet ».
Toujours.
Voilà.
On a beaucoup parlé depuis le début de cette crise sanitaire de la fatigue des soignants. C'est une fatigue qui est à la fois physique, morale et même existentielle. Vous travaillez avec eux puisqu'ils viennent se former en formation continue avec vous à l'université sur l'éthique médicale. Que leur apprenez-vous et que vous ont-ils appris ?
Je commencerai par la seconde question. Ils m'apprennent énormément de choses. J'ai lu des livres sur la pudeur, sur la fatigue, sur le désir, sur le corps, sur la mort, sur la souffrance. Mais ça reste assez lointain. Eux, c'est leur quotidien. Ce que je leur apprends, que j'essaie de leur apprendre, c'est que la philosophie a toujours quelque chose à dire, dans la mesure où je dirais que je n'ai pas de plus grande joie quand tout d'un coup les détails d'un texte de Kant aident une infirmière à mieux faire son travail. J'exagère, j'ai de plus grandes joies dans ma vie que cela, mais enfin, les joies professionnelles, vous voyez. Une infirmière me dit, comment puis-je bien soigner un malade que je n'aime pas ? Or, je trouve un texte de Kant, où Kant distingue entre l'amour et le respect. On peut respecter sans aimer. Voilà ce que j'essaie de leur apporter, essayer de mettre en mots ce qu'ils vivent, si vous voulez.
Éric Fiat, professeur d'éthique donc et auteur de cette ode à la fatigue. Je rappelle qu'on peut retrouver également un de vos textes dans Les penseurs de l'intime qui vient de paraître aux éditions de l'Aube en partenariat avec Le Monde. Dernière question, question rituelle de cette émission, Éric Fiat. Quel est, selon vous, l'objet du futur ou l'objet qui manque au futur ?
Alors, quand vous m'avez annoncé que vous me poseriez cette question, puisque je révèle peut-être un secret à nos auditeurs...
On vous laisse le temps d'y réfléchir un petit
voilà,
peu.
Voilà, c'est ça. Eh bien, j'avoue que vous m'avez bien fait cogiter, gamberger, vaporiser de la toiture, comme dirait Michel Audiard. Hein. Pour bien répondre à cette question, il faudrait être, je ne sais, moi, il faudrait être un devin, un aruspice, un augure. Il faudrait pouvoir lire dans le marc de café, dans les entrailles des volailles. Je n'ai aucun de ces pouvoirs. Je dirais spontanément que ce qui risque de manquer au futur, ce ne sont pas des objets, mais le manque des objets. Je veux dire par là que nos vies sont déjà tellement saturées par les objets techniques que je crains que les hommes qui viendront après, les hommes du futur, eh bien, sachent encore moins que nous résister à la tentation d'accumuler des tas d'objets qui sont censés les rendre heureux, alors qu'en fait, ils les rendent pas forcément heureux, comme si peut-être les hommes du futur allaient manquer de mangue, voyez. Il faut être un peu tempérant. Montaigne disait « L'intempérance est peste de la volupté, quant à la tempérance, c'en est l'assaisonnement ». C'est magnifique, ça. Quand je dis une phrase comme ça, moi, je suis heureux pour 15 jours. Et donc, soyons tempérants dans le désir d'objet. Mais je ne voudrais pas que notre entretien, qui me fut agréable, s'acheva par ces propos un peu chagrins, un peu inquiets. Non, j'ai un grand espoir. Qu'un objet auquel je suis très attaché ne manque pas au futur. Cet objet qui a le pouvoir magique de vous transformer en quelques secondes un grincheux en un joyeux, hein, Blanche-Neige et les sept nains. Cet objet magique qui fait venir un sourire aux lèvres les plus sèches à peine l'a-t-on ouvert. C'est un tout petit objet. Il est pas cher, il est léger, il tient dans la poche. C'est normal, c'est un livre de poche. C'est un livre de poche écrit par un monsieur qui est né il y a exactement 400 ans, qui s'appelle Jean de La Fontaine. Lisez quelques vers d'un texte de La Fontaine et immédiatement vous ne sentez pas de joie. Ce matin, je suis tombé sur « Un lièvre en son gîte songeait ». Car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe ? Et ça m'a défatigué. J'espère que ce livre joyeux, défatigant, ne manquera pas aux hommes du futur. Voilà ma réponse, c'est un petit livre de poche écrit par Monsieur Jean de La Fontaine.
Merci d'être venu nous défatiguer ce soir dans ce monde nouveau sur France Inter. Ode à la fatigue. Éric Fiat, merci beaucoup.
Merci à vous.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida poquito a poco, a poquito a poco.
Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Pa' que me escuche toda España. Hey. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido.
Lo hice por
eso, hey.
Lo hice por ti.
¿Cómo no?
Y yo lo hice por ti.
Lo hice por ti, mami.
Yo lo hice por ti.
Vamos, vamos.
Lo hice por ti. Yo lo hice por ti, yo lo hice por ti.
Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate. Mientras todo seguís ahí mirando.
Lo hice por ti.
¿Cómo no?
Lo hice por ti.
Eso.
Yo lo hice por ti.
Sí.
Yo lo hice por ti.
Aún recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie. Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidar, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me hayas siquiera querido. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me hayas siquiera querido.
Lo hice por ti. Eso. Lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
De la musique traditionnelle espagnole mélangée au rap, l'espagnol c'est Tangana, abat les cloisons traditionnelles ici avec Niño de Elche Un Veneno, parle d'addiction à la drogue et aux femmes.
Un monde nouveau. Sonia Quironi sur France Inter.
On continue d'écrire le monde nouveau sur France Inter avec Sophie Comte, cofondatrice et directrice de la rédaction de Chute Magazine. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Et Hervé Poirier, rédacteur en chef d'Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Bonsoir à vous Hervé.
Bonsoir.
On commence avec vous Sophie et vous nous parlez ce soir du casse du siècle dans le domaine des crypto-monnaies.
Et oui, 600 millions de dollars, c'est la somme la plus importante jamais volée en crypto-monnaie, un vol qui a lieu il y a quelques jours. Alors heureusement, la frayeur pour l'entreprise en question Polynetwork n'aura pas duré longtemps, puisqu'elle a rapidement pu remettre la main sur le butin. Le hacker, en fait, s'est très vite présenté sous le pseudo de Mr. White Hat et a en effet commencé à restituer la somme quelques heures après le vol, précisant que son idée n'était pas de voler, mais plutôt de démontrer une faille dans le système de sécurité. Une action donc on peut peut-être qualifier de louable et que l'entreprise en tout cas n'a pas manqué de récompenser de la coquette somme de 500 000 dollars au hacker en question. Mais il faut dire qu'elle repart gagnante dans cette histoire puisqu'elle peut ainsi tirer les leçons et améliorer son système de sécurité.
Alors est-ce qu'on peut dire que ce hacker bienveillant a cherché à rendre service ?
En quelque sorte oui, en échange de monnaie sonnante et trébuchante bien sûr, ce hacker semble faire partie de la bande des hackers éthiques, des personnes dont le métier est de hacker leurs clients. Car oui, hacker est un métier. Dans l'histoire du hacking, on voit apparaître les premiers hackers et hackeuses dès le début de l'informatique dans les années 50 au MIT. Leur métier consiste à chercher à résoudre un problème technique, mais avec une approche différente, plus créative, qui fait appel davantage à l'imagination, comme on dit en anglais « out of the box », penser en dehors du cadre. On retrouve là en fait toute la culture digitale et disruptive. Alors petite parenthèse au passage, sachez que « hacker » ne signifie pas « pirate ». On a tendance en français à rendre ces deux mots synonymes. En fait, en anglais, hacker signifie bidouiller. Donc cela fait partie des clichés qu'on peut retrouver en matière de sécurité dont on a parlé justement dans notre dernier numéro avec ou sans contact.
Oui, alors c'est hacker ou plutôt donc c'est bidouilleur, que font-ils exactement ?
Alors au fil du temps et du développement de l'informatique et des réseaux, les hackers, grâce à leur légendaire esprit de bidouillage, sont devenus des personnes capables d'identifier des failles dans les systèmes de sécurité. Donc, quand ils trouvent une faille, eh bien, ils s'offrent à eux deux possibilités. Soit ils l'exploitent pour leur usage personnel, soit ils aident les entreprises à corriger la faille. Et donc c'est ici qu'entrent en scène les hackers malveillants, ceux auxquels on pense habituellement, les pirates, donc ceux qui passent en quelque sorte du côté obscur de la force et qu'on associe souvent au dark web. On les appelle aussi Black Hat, en opposition à nos hackers éthiques et bienveillants, les White Hat, une référence qui nous vient tout droit des Western Spaghetti où s'affrontaient chapeau blanc et chapeau noir. On trouve même des Grey Hat, des chapeaux gris, vous l'aurez deviné, qui oscillent un peu entre les deux.
Et alors ces hackers éthiques, ils proposent aujourd'hui leurs services aux entreprises ?
Et oui, face aux pirates, les hackers éthiques ont choisi leur camp. Donc ces chasseurs de primes 2.0 peuvent être embauchés directement par les entreprises. Ils peuvent également être freelance et ils travaillent donc via des plateformes où ils sont rémunérés en bug bounty, entendez par là une récompense de bug. Leur métier consiste donc à faire des tests d'intrusion et ce ne sont en fait ni plus ni moins que des ingénieurs en cybersécurité et souvent des personnes très passionnées dans leur domaine. Alors aujourd'hui, les entreprises ont cruellement besoin de leurs talents dans de nombreux domaines, dans l'industrie, dans la banque, dans la finance, l'assurance. Elles sont prêtes à débourser de jolies sommes pour se faire hacker. Et il faut dire en fait que les cyberattaques n'ont cessé d'augmenter ces dernières années et plus particulièrement pendant le confinement. On a constaté une hausse de plus de 500% de cyberattaques. Et alors avec la montée en puissance des crypto-monnaies, Eh bien, les hackers et les hackeuses éthiques ont de beaux jours devant eux.
Merci Sophie Comte pour cette chasse au trésor des temps modernes. Je rappelle que le numéro 6 de Chute Magazine, un trimestriel avec ou sans contact, est toujours disponible en kiosque, en librairie et sur le site chute.media. Et après ce cyber-western, on va passer au nouveau Far West spatial avec vous, Hervé Poirier. Vous nous parlez, vous, ce soir, du véritable enjeu, la conquête spatiale, un enjeu d'une ampleur colossale, mais très peu médiatisé.
Vous avez sans doute entendu parler cet été des milliardaires Jeff Bezos et Richard Branson, oui, qui ont été faire un peu de tourisme dans l'espace. Mm-hmm. On a bien rigolé avec eux. Vous avez sûrement suivi les aventures palpitantes de Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale, très couvert médiatiquement. Bah, vous avez rêvé devant les projets de conquête de la Lune ou de colonisation de Mars que projettent les agences. Ce que vous avez peut-être pas vu, c'est ce qui se passe depuis 2 ans. Et qui va se passer dans les 10 ans à venir, c'est-à-dire l'installation de méga constellations de satellites en orbite basse. Et ça, ça va vraiment changer le monde.
Ah bon, pourquoi ? C'est quoi le but ?
Alors le but, c'est l'accès Internet à haut débit partout dans le monde. En orbite basse, parce que les communications vont être très rapides. Mmh. Et il en faut beaucoup, beaucoup, parce que chaque satellite couvre une toute petite portion de la Terre. L'Internet des objets, les villes intelligentes, le guidage des voitures autonomes, le cloud... Beaucoup d'experts pensent que ces méga-constellations de satellites vont être l'infrastructure critique du monde numérique de demain. Qui va maîtriser ces méga-constellations, maîtrisera finalement l'économie, la communication et la souveraineté. Mmh. Donc c'est un enjeu industriel, politique, militaire, colossal. Rendez-vous compte, en 2 ans, il y a eu 2500 satellites qui ont été envoyés pour ces méga-constellations. Et dans les 10 ans à venir, il y en a 60 000 qui sont prévenus. Ça veut dire que on aura lancé 10 fois plus d'objets dans les 10 ans à venir que dans toute la conquête spatiale jusqu'ici. Donc il y a un changement de paradigme colossal qui est en train de se faire. Et le vrai enjeu de la conquête spatiale, pour l'instant, il se passe en orbite basse, autour de tous ces projets. OneWeb, Kuiper, Starlink, Goowang, Lightspeed sont autant d'entreprises qui se sont lancées dans la ruée sous le regard un peu éberlué des agences et des experts que Pierre-Yves Bocquet, notre journaliste, a rencontré pour faire cette enquête.
Une sorte de nouveau western spatial, donc.
Au sens, c'est un monde sans loi. Il y a un vide juridique total pour gérer ces satellites, mais il y a un nombre de questions qui doivent être gérées qui sont assez sidérants. La question des débris. La plupart de ces satellites vont tomber en panne et vont devenir des objets flottants. La question de la pollution, ils vont retomber l'atmosphère et mettre beaucoup d'aluminium dans la très haute atmosphère. La question du lancement des fusées. Les fusées vont devoir maintenant éviter ces dizaines de milliers d'objets qui flottent en orbite basse. La question de la sécurité de la station spatiale, ils tournent pas très loin d'eux. La question de l'observation astronomique. Devant les télescopes, il y a de plus en plus de pollution lumineuse due à ces satellites. La question de la souveraineté, bien sûr, parce que qui va maîtriser ces données-là pourra avoir une influence politique majeure. La question militaire, enfin. Mmh. Il ne vous a pas échappé sans doute que depuis 2 ans, l'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne ont créé une Space Force. La Chine, le Japon, la Corée sont en train de réfléchir à créer la leur. C'est pas uniquement pour aller faire la guerre sur Mars. C'est pour la maîtrise de l'orbite basse, là où, cette fois-ci, le monde va vraiment changer.
Une enquête détaillée à retrouver donc dans le nouveau numéro d'Epsilon, daté de septembre, qui sera en kiosque dès mercredi prochain. Merci beaucoup Hervé Poirier, rédacteur en chef à Epsilon, et merci à vous Sophie Comte, directrice de la rédaction de Chute Magazine. Tous les soirs sur France Inter, on reçoit un artiste du monde nouveau. Notre prochain invité en fait incontestablement partie. Lui qui ne craint pas de chanter l'amour et ses états d'âme. Jeune chanteur, compositeur et producteur français, il fait, comme bon nombre d'artistes de sa génération, tout lui-même. Après avoir fait partie d'un groupe de rock, APs and Horses, et suivi Charlotte Gainsbourg en tournée pendant 2 ans, il s'est lancé en solo, un premier EP sorti en 2019 et une collaboration avec le rappeur Damso plus tard. Voici donc une nouvelle mixtape qui sortira le 1er octobre prochain. On en dévoilera ce soir sur France Inter un nouvel extrait inédit. Bonsoir Saint-DX.
Bonsoir.
Pourquoi ce nom, Saint-DX ?
Pourquoi ce nom ? Alors c'est quand j'ai, ça devait être il y a 4 ans, quand j'ai fini ce projet Apes and Horses avec mon ami Pablo, j'étais panne d'inspiration complète Et puis j'ai acheté un DX7, un Yamaha DX7 sur le Bon Coin à l'époque.
Donc le synthétiseur mythique des années 80.
Exactement. En fait, j'étais fan de cette chanson de Top Gun qui s'appelle Take My Breath Away, et j'adorais ce son de basse qui fait down 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 down. Donc j'ai tout simplement tapé sur Google et j'ai vu que c'était un DX7 et je l'ai acheté, et ça a été un peu une révélation, d'où le nom Saint DX.
Vous êtes notre invité ce soir dans un monde nouveau, Saint-DX, et pour les auditeurs, eh bien, qui ne vous connaîtraient pas encore, vous allez chanter pour eux maintenant en live du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. On va écouter donc tout de suite une de vos chansons extraites de cette nouvelle mixtape qui sortira en intégralité le 1er octobre prochain. Ça s'appelle No Love et c'est à vous. Saint-DX.
What if there's no love? There's no love. I came here for you. There's no love. You made me a fool. There's nothing I can do. 'Cause there's no love. What if there's no love? There's no love. There's no love. Whatever leads you to the danger, I am naked, facing mute words. Alone with the night, half open eyelid. While there's like this, make my mind sway. I'm all so small in danger zone. You act like you can carry on. We just resent empty tones. You left your war on your own. Yeah. What if there's no love? There's no love. There's no love. What if there's no love? There's no love. There's no love. There's no love. There's no love. Cause if your heart crosses my mind, I don't wanna wake up.
No love. Que se passera-t-il s'il n'y a plus d'amour, se demande Saint-DX, qui joue donc ce soir en live dans le studio de France Inter. Cette chanson extrait de la nouvelle mixtape qui sortira le 1er octobre prochain. Vous vous accompagnez au piano ce soir pour cette chanson. De combien d'instruments jouez-vous en tout, Saint-DX ?
J'ai commencé avec le piano au conservatoire. Et puis ensuite, j'ai découvert Nirvana quand j'avais 12 ans, avec Rape Me, et donc j'ai appris la guitare, ouais, pour pouvoir aussi plaire à une fille qui adorait Ben Harper.
Excellente idée.
Voilà. Et puis un été, je me suis mis à apprendre la basse, parce que je suis devenu fan de Prince aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a ces trois instruments principalement. Et puis je mettrai aussi la voix dedans, qui est pour moi mon instrument principal.
Et la voix, c'est venu quand ? À quel moment vous vous êtes dit « je veux être chanteur » ?
La voix, c'est venu un peu par défaut. J'avais un groupe de musique qui s'appelait Eps & Orsiz, et puis c'était plus pour accompagner des moments instrumentaux. Donc je me suis mis à chanter, mais ça fait très récemment que je me sens légitime. Et souvent, quand on me demande « qu'est-ce que tu fais ?», dans la vie, je dis chanteur en premier, plus que musicien même.
Vos chansons parlent beaucoup, quasiment exclusivement, Saint-DX, d'amour.
D'amour, oui.
Pourquoi ?
Alors, d'amour, de rupture, d'amour déçu. Mmh. Je sais que j'ai beaucoup de facilité à écrire des chansons quand ça fait mal au cœur. Mmh. Mais c'est plus, je trouve, à travers ce thème de l'amour. En fait, souvent, les paroles que je chante ont moins d'importance que la manière dont je les chante. Donc c'est surtout, l'amour c'est un vecteur pour parler de plein de choses dans mes paroles. Et c'est souvent, je cache des symboles ou des messages pour certaines personnes dans ces chansons d'amour.
Et elles se reconnaissent, les personnes en question ?
Certaines, oui, mais d'autres...
Pas toutes ?
D'autres, ce serait impossible.
Vous chantez principalement en anglais, même si il y a aussi quelques chansons en français. Pourquoi avoir choisi l'anglais ?
Alors, d'abord, c'est par la musique qu'écoutaient mes parents. Mes parents n'ont jamais, quasiment, à part Gainsbourg et Brel, écouté de musique française. Donc, ce qui passait à la maison, c'était les Beatles, Michael Franks, Sade. Et donc, je suis arrivé très tard. J'ai découvert Berger, je pense, j'ai un peu honte de le dire, mais quand j'ai eu 30 ans, quoi.
Michel Berger, donc.
Ouais, ouais. Pour vous dire que j'ai eu très peu de culture de musique francophone à la maison. Et c'est aussi pour cacher une timidité et un manque d'assurance en moi, qui faisait que c'était plus simple de pouvoir chanter dans une langue dans laquelle personne me comprenait. Sauf que, bon...
Bon, il y a quand même des gens qui parlent anglais,
voilà.
On dit aussi beaucoup de votre musique qu'elle est sensuelle.
Alors oui, on dit, messieurs...
Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Bah, bizarrement, je me sens pas comme quelqu'un d'extrêmement sensuel. Plutôt, je suis plutôt dans la tête. Les choses
plutôt
se passent
cérébrale.
Plutôt dans la tête que dans le corps. Mmh. Donc oui, je suis assez étonné souvent quand on me dit ta musique. Voilà, ta musique me donne envie de, je sais pas.
Alors, on dit aussi, j'ai lu en tout cas, sous la plume de mes confrères journalistes, que vous étiez l'incarnation du crooner contemporain. Alors, ce qualificatif de crooner, qu'est-ce que vous en faites ?
Ah oui, alors, donc ça c'est un peu de ma faute, parce que j'essaie de trouver un terme dans lequel me retrouver, et puis j'ai tapé crooner sur Wikipédia un jour, et en fait la définition et puis l'article m'a complètement parlé. Cette grande sensibilité. Pour moi, le crooner, au départ, c'était quelqu'un de très macho, de très masculin. Et je me suis rendu compte qu'au final, pas du tout. C'est la relation de quelqu'un avec son micro, avec sa sensibilité, avec ses failles. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de failles et qui arrive à les montrer. Pour moi, Billie Eilish, c'est un crooner, une crooneuse, clairement.
Vous avez évoqué en quelques mots vos influences. On va s'y arrêter un petit peu plus en détail. Quand on parle d'un disque, peut-être qui est le disque qui a le plus compté pour vous, c'est ça. La musique du Grand Bleu, évidemment, Éric Serra. Mais alors ça, c'est un film qui a beaucoup compté pour les gens de ma génération. Moi, j'ai grandi dans les années 80, mais pas vous.
Bah, moi, je suis né dans les années 80. Donc non, c'est un film qui m'a énormément marqué. Et avant le film, on avait le double CD à la maison, que je garde toujours. D'ailleurs, il est toujours réparé avec du scotch, mais que j'ai toujours avec moi.
Avec le dauphin qui saute.
Exactement, dans le petit carré. Et en fait, c'est mes premiers souvenirs musicaux, surtout Big Blue Ouverture, cette chanson. C'est une énorme claque. Pour moi, j'arrivais pas à savoir s'il y avait une basse, s'il y avait un synthé, je comprenais rien, c'était juste de la pure émotion des couleurs. Et quand je me suis mis à composer avec ce DX7, c'est ce que j'ai voulu retrouver, c'est oublier les instruments que je dois jouer, c'est juste penser aux émotions.
Autre influence, Sade, The Sweetest Taboo. Pourquoi de ce tabou, Sade? Pourquoi Sade?
Pourquoi Sade? Alors c'est une énorme influence qui est pour le coup venue sur le tard, même si mes parents écoutaient depuis que j'étais petit. Mais ça a été... c'est une musique qui me fait énormément de bien. À chaque fois que je l'écoute, à chaque fois que j'ai regardé beaucoup de live d'elle, je suis fasciné par, par elle, par les musiciens qui l'entourent, par son image, sa douceur. Ouais, enfin je...
Vous arrivez à savoir pourquoi elle vous fait autant de bien?
En fait, elle force jamais, elle va jamais trop loin dans les émotions, même si, à l'inverse, je peux aller un peu trop loin parfois, dans les cris et tout. En fait, je trouve qu'elle sait exactement bien placer sa voix, elle a une maîtrise assez exceptionnelle. En fait, ça paraît facile quand on entend Sade, on peut se dire, le fredonner comme ça et tout, et c'est une musique très complexe, mais très accessible.
Alors on va écouter quelqu'un d'autre qui a beaucoup compté pour vous dans vos influences, c'est Prince.
Ouais.
Raspberry Beret, Prince. Vous aviez quel âge?
Est-ce que j'étais né à l'époque de cette chanson? Je sais pas. Peut-être que j'étais en ventre de ma mère.
En 86? 84, ouais. 84.
Ah non, j'étais avec mon père, pardon. Mais non, je...
C'est vos parents aussi, Prince?
Pas vraiment. J'ai découvert, je suis parti aux États-Unis avec ma mère quand j'étais adolescent. Et dans un Walmart, un énorme centre commercial là-bas. J'ai acheté le CD Purple Rain de Prince. Et je détestais Prince quand j'étais plus jeune, parce que je détestais le son de la caisse claire. Très 80s. Quand on l'écoute, elle est très gênante au début. Et donc j'ai mis du temps à mettre dedans. C'est vraiment Purple Rain qui est, je pense, mon morceau préféré de tous les temps.
Alors pourtant, quand on parle des 80s, il y a ce fameux synthé que vous aimez, que vous avez découvert, notamment avec une chanson que vous avez citée tout à l'heure, Take My Breath Away, qui est la bande originale d'un film mythique des années 80 avec Tom Cruise, Top Gun. Et quand on parle de ce synthétiseur DX7, eh bien dans les années 80, on le retrouve un peu partout, par exemple chez Jean-Jacques Goldman. Ou encore chez AA. Et enfin, Désirless, Voyage, Voyage.
Voyage, Voyage.
Magnifique.
Mais alors moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme d'aujourd'hui cette attirance, cet attrait pour ce son qui est vraiment années 80, qui était à une époque complètement tombée en désuétude et qui revient aujourd'hui?
Oui, parce que c'est un son, je pense qu'il y avait 98% de la production pop mondiale où il y avait ce synthé, en fait. Mmh. C'était vraiment, on ne pouvait pas y échapper. Et moi, c'est vraiment quand j'ai voulu revenir aux sources, il y a 3-4 ans, me dire quelle est la musique qui m'a le procuré le plus d'émotions dans ma vie à un moment donné. Et ça a été la musique des années 80 dans laquelle je suis né. Et donc ça a été un peu une évidence d'aller au DX7. Mmh. Et puis je suis passionné de musique, donc je me suis renseigné sur plein de synthés. Enfin, c'est pas le seul synthé non plus que j'utilise,
oui.
De loin. Mais voilà.
Mais celui-là, il a une saveur particulière.
Et puis techniquement, il a un toucher plombé. Mmh. Les musiciens reconnaissent ça. En fait, il est extrêmement lourd parce que chaque touché plombé, donc Il y a un confort de jeu incroyable.
On a promis aux auditeurs Saint-DX qu'on leur ferait découvrir ce soir un extrait inédit de la mixtape qui va sortir en octobre. On écoute tout de suite Ilia.
Si t'aimais veut dire je fais infraction, je ne veux jamais, jamais avoir raison. Si t'aimais veut dire la vie sans toi, je vivrais une vie dans de tort, tu sais. Jamais, jamais avoir raison. Si t'aimais veut dire je fais délation, je ne veux jamais, jamais avoir raison.
Extrait inédit de la nouvelle mixtape de Saint-DX qui sortira le 1er octobre prochain. Merci de nous l'avoir offert en inédit ce soir dans Un Monde Nouveau pour France Inter. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On termine avec la prescription littéraire du jour, puisqu'à l'occasion des 40 ans de la loi Langue sur le prix unique du livre, on propose chaque soir à nos invités de nous présenter un livre qu'il a choisi. Qu'est-ce que vous avez choisi ce soir, Saint-DX ?
J'ai choisi une nouvelle de Jack London qui s'appelle Construire un feu. Donc c'est une nouvelle qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu il y a quelques années. C'est sur la fragilité de l'homme et sur sa fragilité, son inattention face à la nature qui l'entoure.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Vous serez en concert le 10 novembre prochain au Café de la Danse à Paris et le 19 septembre au Festival Les Nuits Botaniques à Bruxelles. Un Monde Nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Colli à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et préparation de l'émission. Sans oublier Lily Cornillac et Anaïs Dinarc à la technique ce soir. Arnaud Caillet et Florian Dorimini. Un Monde Nouveau, c'est fini pour ce soir. On se retrouve lundi après le journal de 19h. Vous avez rendez-vous avec Le Téléphone Sonne, animé par Eric Delvaux ce soir. Quel avenir pour le jeu vidéo ?